raison avec Ayn Rand par Xavier Delaporte, aujourd'hui de Saint-Pétersbourg à New York. Avoir raison avec Ayn Rand, l'intitulé de cette semaine, est en soi un défi, car pas grand monde ne revendique d'avoir raison avec la théoricienne de l'égoïsme rationnel, avec celle qui détestait l'altruisme, qui détestait le socialisme, qui détestait l'État, avec une théoricienne et une romancière qui n'a cessé d'exalter les valeurs de liberté, certes, mais aussi de puissance, d'individualisme, avec cette sorte de gourou colérique qui, après sa mort, a fourni en particulier au mouvement des Tea Party aux États-Unis une de ses bases théoriques. Et pourtant, non seulement il est intéressant de se demander si on peut avoir raison avec Ayn Rand, parce qu'elle était profondément antiraciste, elle était féministe à sa manière, elle était aussi à sa manière anticonservatrice, mais la lecture d'Ayn Rand est nécessaire parce que son œuvre continue aujourd'hui encore d'irriguer la pensée américaine. Alors toute cette semaine, nous allons parler d'Ayn Rand, de sa vie d'abord, et puis de son rapport avec le mouvement libertarien mercredi, de son œuvre littéraire jeudi. Mais pour commencer, donc, deux émissions seront consacrées à la vie de Ayn Rand, vie qui est non seulement assez romanesque, mais qui a l'avantage d'éclairer beaucoup de son travail à la fois littéraire et théorique. Et ce parcours d'une vie, eh bien, nous allons le suivre avec un des promoteurs les plus actifs de Ayn Rand en France, avec vous, Alain Laurent. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, vous êtes essayiste, vous êtes éditeur aux Belles Lettres, et c'est d'ailleurs aux Belles Lettres que vous avez publié il y a quelques années une biographie de Ayn Rand intitulée Ayn Rand ou la passion de l'égoïsme rationnel. Et pour commencer, avant d'entrer de plein pied dans la vie de Ayn Rand, par curiosité, comment vous en êtes venu à découvrir cette œuvre de Ayn Rand et puis sa personnalité, alors qu'elle est quand même très peu connue en France, ou elle l'était en tout cas très peu jusqu'à il y a quelques années?
Oui, ça s'est passé presque de façon accidentelle, puisqu'il faut remonter à au début des années 80. J'avais publié aux presses universitaires un livre qui s'appelait de l'individualisme, dans lequel d'ailleurs son nom ne figurait nulle part. Et lorsqu'il était publié, qu'on en a parlé, quelqu'un est venu me voir en me disant « Mais c'est tout à fait scandaleux, le nom d'Ayn Rand ne jaillit nulle part dans ce livre, donc il manque cruellement. » Et il m'apportait en même temps le premier des deux grands romans de Ayn Rand, de La Source Vive. Je m'y suis plongé, j'ai trouvé ça tout à fait enthousiasmant, et à partir de ce moment-là, donc, j'ai voulu en savoir toujours plus sur elle, parce qu'il y avait une telle convergence d'idées entre ce que moi je soutenais et ce qu'elle avait exposé dans ce roman, que, en effet, j'étais travaillé par ce désir de découvrir qui elle était, comment elle en était venue à cela, et qu'est-ce qui s'était passé ensuite, puisque ce roman date de 1943 et qu'elle n'est décédée qu'en 1982.
Donc c'est la question de l'individualisme par laquelle vous êtes entré dans Ayn Rand.
Exactement, parce que, en fait, on peut dire que ce thème de l'individualisme, il organise pratiquement toute sa trajectoire. Elle a continué à en parler jusqu'à la fin de sa vie. Par exemple, vous rappeliez tout à l'heure que c'était une antiraciste. Il y a un article célèbre d'elle qui date du début des années 60 où elle dit mais c'est au nom de l'individualisme qu'il faut être antiraciste, puisqu'il est tout à fait scandaleux de juger d'un individu par son soi-disant appartenance à une race. Mais elle a commencé son itinéraire intellectuel, se construit en effet sur cette découverte et cette défense de l'individu, que ce soit dans ses romans, même ses pièces de théâtre, puisque les scénarios qu'elle avait construits,
on va en parler, bien sûr,
tout à fait multiforme.
Mais justement, entrons dans la vie d'Ayn Rand, qui est vraiment à la fois très mal connue et qui nécessite d'être racontée, parce qu'elle est absolument, absolument extraordinaire, cette vie. Donc Ayn Rand, qui donc est une penseuse américaine, hein, bien sûr, aujourd'hui, est née en Russie. Elle est née en Russie en 1905, sous le nom de Alissa Rosenbaum.
C'est ça, voilà.
Quel était son milieu d'origine à Ayn Rand?
Oh, c'était le milieu de la petite bourgeoisie juive de Saint-Pétersbourg, avec un père pharmacien. et avec une mère extrêmement tolérante, très cultivée, qui lui a appris assez. Et il y avait tout de même, ils avaient recours à une gouvernante française, et donc Ayn Rand est quelqu'un de parfaitement francophone, et c'est comme ça, donc, elle a été amenée assez jeune à avoir dans sa famille une grande liberté d'esprit et comment dire, un enfouissement culturel très très prononcé.
C'est ça, parce qu'elle lit Victor Hugo dans le texte à
Absolument,
l'âge
oui,
de
là.
12 ans.
Tout à fait. Elle a été attirée très tôt par Victor Hugo, et alors ça va orienter pas mal cette trajectoire, parce que ce qui l'enthousiasme chez Hugo, c'est le caractère héroïque des personnages, le fait parfois d'être seul contre tous. Donc c'est ça qui l'enthousiasmait. Elle a même dans les années 60, elle a par exemple publié à un moment donné la préface à une traduction anglaise de Victor Hugo. Voilà.
Et évidemment, la révolution arrive assez vite, hein, puisqu'elle a à peine 12 ans quand la
Voilà.
révolution arrive. Ça produit quoi dans la famille, la
Alors, ce qui se
révolution
passe dans la
russe?
famille, c'est que, et pour elle, ça a été tout à fait décisif, elle expérimente dès le début de 1917, avant même qu'il y ait le plus fort de la révolution, une invasion de la perspective Nevski, la grande artère de Saint-Pétersbourg, où est située la pharmacie de son père.
Et leur appartement?
Et il y a, oui, et alors l'appartement est quelques étages au-dessus, elle voit des scènes d'une violence inouïe, l'invasion de la pharmacie paternelle, des dégradations, des menaces, etc. Et alors, de ce jour, elle devient le plus violemment possible qu'il puisse être anticommuniste et anticollectiviste au-delà du seul communisme.
Vous pensez que cette constante dans sa vie, qui va à la fois être une constante, je dirais presque positive, puisqu'elle va être entendue par exemple en audition dans les années 60 pour dénoncer les communistes qui seraient infiltrés dans Hollywood, mais aussi en négatif, puisqu'on peut considérer que le développement de l'individualisme est une réaction quasiment immédiate à la question du collectivisme, ça vient de ce traumatisme, disons, adolescent
Oui,
du déclassement aussi.
si l'on peut dire, l'une des sources vives en ce qui la concerne. Et deuxièmement, et ensuite, ça a été accompagné par tout un approfondissement intellectuel, mais on peut dire, d'une part, elle-même était profondément individualiste. C'est peut-être quelque chose qui est dû à des circonstances familiales, puisque lorsqu'elle avait 12 ans, donc la même année, elle tenait un petit journal de bord, elle écrit dessus: aujourd'hui, j'ai décidé d'être athée. C'est quelque chose de
À
très
12 ans, elle décide
prodigieux.
d'être
Oui,
athée. OK.
qu'une jeune fille de 12 ans, en effet, ait la puissance de réflexion pour s'affirmer contre les tendances de sa famille, bon, qui était pas juive orthodoxe, mais enfin, il y avait tout de même ça dans la famille, et donc elle prend ses décisions. Donc on voit, il y a une prédisposition personnelle, cette expérience traumatisante du collectivisme en acte lorsqu'il y a la révolution de 1917. Et puis, ça a été renforcé ensuite par un certain nombre de circonstances dans sa vie d'étudiante, où elle a été dénoncée comme étant très politiquement incorrecte. Et tout ça, peu à peu, c'est alimenté par soi.
Parce que pour une part, effectivement, il y a le déclassement de la famille, de cette petite bourgeoisie juive de Saint-Pétersbourg, dont le père perd la pharmacie, ils s'exilent, ils reviennent, ils
Voilà,
essayent
oui.
de monter des pharmacies collectives, ça marche pas, et donc ils vivent dans un appartement
Tout à fait
tout à fait
exigu, de
exigu.
façon très collective d'ailleurs,
Et
involontairement.
elle, de son côté, elle entre à l'université. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle a beau détester le communisme déjà, elle entre à l'université, qui est pour la première fois ouverte aux femmes grâce au communisme, et elle étudie la philosophie d'abord.
Elle étudie l'histoire et la philosophie. C'est là qu'elle fait connaissance avec Aristote, d'ailleurs. Elle retrouvera par la suite. Mais alors, parallèlement, il y a presque quelque chose de plus important que l'histoire et la philosophie, c'est sa passion romanesque pour le cinéma.
Qu'est-ce qu'elle trouve dans le cinéma, Alain Laurent?
Bien justement, alors c'est quelqu'un qui a une. Elle écrivait déjà des petites histoires lorsqu'elle était gamine. Donc il y a une sorte de vocation informelle sur le plan littéraire. Et alors justement, le cinéma qui est en train de naître à l'époque est pour elle quelque chose d'absolument prodigieux, qui l'enthousiasme. Elle passe son temps à aller voir des films. Et c'est comme ça, ce qui va orienter sa trajectoire ultérieure aussi, et c'est comme ça qu'elle découvre le cinéma américain, qui est, comment dire, la principale productrice, hein, avec Hollywood en train de naître. Donc, avant même qu'elle émigre, il y a ça qui est extrêmement puissant.
Et c'est drôle d'ailleurs. C'est drôle parce que d'ailleurs dans son amour du cinéma et du cinéma américain en particulier, il y a, pour rester sur un registre un peu analytique, psychanalytique, il y a aussi qu'elle y retrouve une sorte de reflet de son père, parce que ce cinéma met en valeur les self-made men comme ça, les gens. Voilà. Elle y voit comme une sorte de reflet de son père qui s'est un peu fabriqué tout seul, qui essaie de lutter aussi contre une société qui l'empêche de grandir. Il y a déjà quelque chose comme ça en reflet qui va continuer à l'intéresser.
Tout à fait. Et là, c'est quelque chose aussi qui la conforte dans son orientation individualiste, puisque c'est quelque chose qui, dès les origines, peuple en grande partie le cinéma américain. Et ça va lui donner l'occasion, d'ailleurs, de quitter l'URSS, parce qu'elle propose à l'université où elle était d'aller faire une enquête aux États-Unis pour voir de quelle manière l'URSS naissante pourrait s'inspirer du cinéma américain. Donc elle triche tout à fait pour, en effet, promouvoir ses propres conceptions. Donc elle propose, en effet, d'aller faire un stage de 6 mois à Hollywood.
Et juste avant qu'on en arrive à ça, parce que c'est absolument décisif, ce départ aux États-Unis, hein, c'est toute sa vie qui se décide à ce moment-là. Déjà à l'université, quand elle étudie à la fois l'histoire, la philosophie, mais aussi les techniques du cinéma, parce qu'elle fait des études aussi de cinéma, elle a déjà une activité politique un peu marginale et militante qui lui vaut presque d'être évacuée.
Elle a failli être expulsée de l'université, elle se rattrapait tout à fait de Jusset, parce que c'était un esprit totalement non conformiste, et il y avait déjà, la travaillant puissamment, donc cette hostilité viscérale au communisme. Elle essayait de le simuler, et c'est quelque chose qu'on va retrouver par la suite dans son premier roman.
Dont on va évidemment parler. Donc, vous nous disiez, 1926, elle monte une sorte de projet d'aller étudier pendant 6 mois le cinéma américain pour évidemment en rapporter les techniques ensuite pour servir le cinéma de propagande soviétique. Mais simplement, l'intention est évidemment pas de revenir, mais de partir définitivement. Et donc, elle arrive en février 1926 à New York avec $50 en poche.
Oui. Alors, ce qu'il faut dire préalablement, c'est que ça n'a pu se faire que du point de vue américain, que parce que il y avait déjà de la famille établie à Chicago, et c'était son oncle et sa tante qui avaient fui les pogroms antisémites une quinzaine d'années auparavant. Sinon, ça n'aurait pas marché. Donc, il fallait qu'elle ait l'autorisation de partir, mais aussi l'autorisation d'être accueillie, et ça marchait des deux côtés. Il fallait une lettre d'invitation, et par miracle, c'est arrivé grâce à sa mère qui s'est beaucoup déployée pour lui permettre de réaliser ses projets cinématographiques.
Et donc, elle arrive à New York, un peu déçue parce qu'elle ne voit pas la Statue de Liberté, il y a de la bruine, et puis voilà. Elle arrive sur à côté. Et puis ensuite, elle prend le train pour aller à Chicago retrouver donc cette tante qui, alors en grande fois miracle de l'histoire, tient une salle de cinéma.
Ouais, voilà, oui, alors tout s'enchaîne merveilleusement et ça la conforte. Alors là, passons au cinéma, elle néglige même sa famille d'accueil, elle passe son temps à aller voir des films, et alors là, elle mûrit son projet, elle peut avoir, grâce à sa tante, quelques adresses à Hollywood, en train de naître, et au bout de quelques mois, elle reprend le train et file à Los Angeles et Hollywood. Puis alors, miracle, elle ne savait pas trop à quelle porte frapper, elle connaissait, pour l'avoir vu sur des photos, Cécile B. DeMille, et voilà, alors ça ne s'invente pas, que tout à fait par hasard, il passe devant elle en voiture, et elle décide de le harponner, si je puis dire, et très stupéfait de cette hardiesse de quelqu'un qui prononçait l'anglais avec un fort accent slave, est enthousiasmé à son tour et lui donne rendez-vous pour qu'elle soit engagée, mais dans des petits boulots. Mais en tout cas, la porte était ouverte.
Oui, parce qu'il faut quand même imaginer, donc on est en 1926 à Hollywood, cette petite femme, elle est pas grand-chose, c'est un petit bout de femme, Alyssa Rosenbaum, avec son très fort accent, qu'elle va garder d'ailleurs toute sa vie, et qui effectivement va harponner un grand, grand producteur hollywoodien pour le dire, je veux travailler avec vous. Alors effectivement, tous ces petits boulots, elle est figurante, elle est documentaliste.
Alors, faut qu'on fasse un tout petit flashback, parce que lorsqu'elle arrive à New York, il y a quelque chose d'autre de décisif qui se produit, elle décide de changer de nom.
Voilà, alors ça c'est très important. Elle change de nom, et donc de Alyssa Rosenbaum, elle devient Ayn Rand, voilà. Qui est un nom un nom très étrange, et d'ailleurs il y a une sorte de mystère autour de la raison.
Oui, ça entretient des légendes tout à fait étonnantes. Alors d'après ce que l'on a réussi à établir, N serait dérivé d'une abréviation de son petit nom en yiddish, d'une part, et quant à Rand, on s'opère toujours en conjecture. Là, pendant longtemps, il y a eu une histoire, ça aurait été dérivé du nom de sa machine à écrire, mais comme les machines à écrire, Rand n'existait pas à l'époque, donc il a fallu revenir. Donc on pense que c'est un anagramme, peut-être de Rosenbaum ou quelque chose comme cela.
Elle s'en est jamais expliquée?
Non. Vous savez que Rand était très, très mutique à l'égard de tout ce qui s'est passé avant son arrivée aux États-Unis. Elle n'a, pendant longtemps, elle a dissimulé son origine juive. Pour elle, dans un individu, les origines ne comptent pas. De même, sur Ayn Rand, ça demeurait quelque chose sur lequel elle ne sait pas expliquer. C'est pourquoi des historiens des idées aux États-Unis se sont penchés sur le cas après son décès et donc sont arrivés à cette conclusion. Mais c'est tout à fait récent qu'on a construit des hypothèses un peu solides.
Et d'ailleurs, pour clore la partie russe, parce qu'elle elle-même la clôt à peu près assez rapidement, que devient sa famille russe? Parce que ensuite, il y a évidemment... non seulement c'est compliqué pour eux déjà, mais ensuite, il y a la guerre. Qu'est-ce qui se passe pour eux?
La famille russe reste là-bas. Elle demeure en contact épistolaire, épisodique avec elle. Pendant un moment, elle a songé à la faire venir, mais c'est... Donc son père et sa mère ont refusé. L'une de ses sœurs est venue d'ailleurs dans les années 60. Ça s'est un peu mal passé d'ailleurs.
Ça s'est mal passé avec sa sœur?
Ça s'est mal passé avec la sœur parce que la sœur ne partageait pas les convictions d'Ayn Rand. Donc elle avait tout de même pas mal intégré la propagande soviétique, enfin de façon superficielle, mais elle était complètement perdue en arrivant aux États-Unis. Et ça se passait donc des années 60. Et Ayn Rand lui a offert de demeurer aux États-Unis, mais sa sœur a préféré retourner. Ayn Rand est quelque chose d'absolument monstrueux, qu'on choisisse volontairement de retourner au goulag, ça, évidemment, ça l'a dépassé.
Alors, pour en revenir donc à Ayn Rand, au fil de sa biographie, elle est à Hollywood dans ses années, au milieu des années 20, elle écrit beaucoup à ce moment-là.
Alors, au début, elle n'écrit pas beaucoup, parce qu'en effet, elle est très prise, elle travaille, elle s'occupe des vêtements des acteurs, des choses comme ça. Et puis, peu à peu, comme elle commence à écrire, elle propose des idées de scénarii et ça éveille l'intérêt, en effet, des gens qui sont autour d'elle. Et au bout de 2 ans, elle devient scénariste officiellement, après avoir été sans le sou pendant pratiquement 2 ans.
Et puis elle écrit des scénarios et elle commence aussi, alors on saute un peu évidemment, mais elle commence aussi à écrire du théâtre.
Tout à fait, oui.
Une de ses pièces dont le titre originel est Woman on Trial, femme pendant un procès.
Voilà.
D'ailleurs c'est drôle parce que cette pièce a été montée en 2001 par Robert Hossein.
Par Hossein, oui, un grand succès à Paris, oui.
Et c'est cette pièce-là qui lui permet donc de revenir à New York, d'aller s'installer à New York en 1934.
Oui, parce que très vite, elle est sollicitée il y a des connexions entre Hollywood et Broadway, les lieux saints, si je puis dire, et par conséquent, elle délaisse assez vite Los Angeles pour New York, où elle s'installe quelques années.
Et alors, dans ses premiers textes, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve des matrices à la fois fictionnelles et philosophiques, intellectuelles, qui vont innerver complètement le travail de Ayn Rand, qui sont le triangle amoureux.
Voilà.
Qui est un cas intéressant parce que elle a rencontré à Hollywood un homme, un acteur de seconde zone qui s'appelle Frank O'Connor, avec lequel elle s'est mariée et auquel elle va faire subir pendant toute sa vie quand même les pires sévices amoureux. Il faut le dire.
C'est quoi qu'on peut dire.
Et donc un des problèmes consiste précisément dans la question du triangle amoureux. Donc parmi ces thèmes, donc le triangle amoureux, l'éloge du mérite, la haine pour l'État, la valorisation de l'individu contre la société, l'athéisme, etc. Quelle est déjà à ce moment-là la réception de ces premiers textes d'Ayn Rand? Je parle de la pièce, mais aussi de premiers textes qui commencent à émailler parmi l'intelligentsia américaine.
Alors quand elle publie son premier roman, With the Living, Nous les Vivants, qui est une sorte de transcription largement, enfin, en partie autobiographique et en partie très imaginaire de ce qu'elle a vécu lorsqu'elle était étudiante en URSS. Tout est en train de prendre forme, puisque c'est dans ce roman qu'on trouve pour la première fois, et ça va la poursuivre jusqu'à la fin, l'une des expressions privilégiées, l'individu doit d'abord vivre pour soi. Ce qu'il ne faut pas entendre de façon fermée, mais elle défend l'idée selon laquelle, lorsque même on est amoureux, c'est quelque chose que l'on fait pour soi. Et donc elle construit peu à peu toute sa pensée, puis au fond ses choix, même esthétiques, sur cette idée force. Et dans ce premier roman, là aussi c'est extrêmement... C'est peut-être l'un des meilleurs qu'elle ait écrit, parce qu'il a une très grande force sur le plan littéraire. Personnellement, je pense qu'il y a une sorte de déperdition sur le plan littéraire au fur et à mesure qu'elle a progressé et qu'elle s'est idéologisée. Alors que là, en effet, elle a des personnages très hauts en couleur, très très marqués. Ça se passe entre un apparatchik du Parti communiste et peu à peu, donc se met en place le triangle amoureux. Et c'est toujours en grande interférence chez elle. Alors, ce qui se passe sur le plan romanesque et amoureux est très lié à l'affirmation de l'individualité. Donc, en effet, tout se met en place dès ce moment-là.
Mais alors, tout se met en place, mais quelle est la réception de tout ça ?
Alors, la réception, le roman fait un flop, on n'en parle pratiquement pas. Il a été pratiquement oublié jusqu'au début des années 60, lorsqu'elle connaît la gloire. Et à ce moment-là, c'était réédité aux États-Unis. Et puis, il y a quelque chose d'autre qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, comme c'est très anticollectivisme et sur le plan de l'hostilité au communisme, à la fin des années 30, c'était récupéré par un scénariste italien mais fasciste. Et donc, Enron l'a violemment dénoncé, mais ça fait... Et c'est pourquoi, d'ailleurs, ce titre, With a Living, a disparu de la circulation pendant un certain temps. Et tout avait été détruit. Il a fallu pratiquement qu'elle recherche des vestiges de ce roman pour, en effet, le réécrire. Et elle a expurgé un tout petit peu les passages les plus nietzschéens lorsque c'était republié au début des années 60.
Mais c'est intéressant, ça, que la production d'Ayn Rand qui a des visées immédiatement anti-totalitaires,
oui,
mais version anti-collectiviste, anti-totalitarisme communiste, puisse intéresser un fasciste italien. Là, il y a un petit problème politique.
C'était le côté anti-communiste. Et Ayn Rand leur est tombé sur le poil, si je peux dire, parce qu'on disait, mais vous-même, vous êtes des totalitaires, et par conséquent, je répudie totalement cette récupération de mon premier roman. Mais comme c'était publié au début de la Deuxième Guerre mondiale, ben, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'entre les États-Unis et l'Italie, les connexions n'étaient pas faciles à établir, donc elle est obligée de laisser tomber. Elle voulait engager les poursuites, en effet, contre les auteurs de cette récupération.
Alors, pendant ces années, fin des années 30, début des années 40, elle s'intègre progressivement dans la vie intellectuelle new-yorkaise. Qui elle fréquente ? Comment ça s'articule ? Qu'est-ce qu'elle cherche ?
Alors, elle a un double registre de fréquentation. Alors déjà, elle connaît du beau monde grâce à Broadway, donc c'est quelqu'un, là, elle connaît les plus grands auteurs et acteurs de l'époque. Il faut tout de même savoir qu'en 1938, 2 ans après With a Living, elle publie un petit texte qui s'appelle Anthem, hymne, et alors c'est presque du 1984 d'Orwell avant la lettre.
Parce que ça raconte quoi ?
C'est l'histoire d'un individu. Donc on est dans une société totalement totalitaire et collectiviste où les individus ne portent que des numéros, ils sont tous interchangeables et toujours il y a une liaison amoureuse qui s'établit entre deux individus qui sentent renaître en eux l'appel de l'individualité, de la révolte contre le totalitarisme. J'ai un texte d'une soixantaine de pages qui a une très grande force, qui est tout à fait prodigieux, parce qu'encore une fois, le 1984 d'Orwell, c'est bien après. Mais là, on en parle très, 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 très peu. Et alors, il y a quelque chose d'autre qui se passe, c'est qu'à l'époque, on est dans l'ère de Roosevelt, l'ère du New Deal, et Enron est indignée par ce qu'elle constate alors dans la société américaine, c'est-à-dire une grande complaisance à l'égard, surtout chez les intellectuels de la côte Est, une grande complaisance à l'égard de l'Union soviétique. Du coup, elle se met aussi en relation avec d'autres intellectuels américains qui partage en effet son point de vue. Et donc voilà ce double registre. D'une part, l'establishment du théâtre ou même du cinéma, parfois même de la littérature. Par exemple, elle établit des liens avec John Dos Passos, entre autres.
Parce qu'il participe à des associations de lutte contre le communisme.
Hein. Oui, alors ça viendra un peu plus tard, mais en tout cas, ça commence à germer dans son esprit, tant et si bien qu'en 1940, elle choisit de s'engager sur le plan politique. Elle prend part à la campagne du candidat du Parti républicain, un total inconnu, qui ne laissera aucune trace dans l'histoire, contre Roosevelt.
Il se fait laminer.
Oui. Et alors, il y a quelque chose d'autre qui se passe, qu'il faut en parler dès maintenant, c'est que même dès le moment où elle a publié With a Living, son premier roman, elle pense à quelque chose d'autre qui serait beaucoup plus puissant, beaucoup plus développé. Et dès 1936, parce que ce qui caractérise Ayn Rand, c'est la longueur de la gestation de toutes ces œuvres. Mmh. Et elle commence à penser à ce qui s'appellera plus tard, donc The Fountainhead, en 1943, la source vive. Elle a mis 7 ans tout de même à en accoucher.
Alors, ce sera, on parlera demain de Fountainhead, de la source vive, évidemment, parce que c'est très important dans la trajectoire d'Ayn Rand. Mais juste pour la question de l'écriture, parce que vous disiez, voilà, elle met du temps à écrire, c'est un long processus de gestation. En même temps, à chaque fois, elle finit d'écrire 2 heures avant le moment de compte-rendu contractuel dans les accords qu'elle a passé avec les maisons d'édition qui vont la publier. Et c'est aussi un aspect qui a l'air anecdotique, mais pas complètement, c'est quelqu'un qui a un rapport comme ça très compulsif au travail, qui fume énormément, qui prend beaucoup de drogue.
Ah oui, tout à fait. Oui, c'était des... Elle survit intellectuellement d'une façon totalement artificielle. Hein. Et c'est un bourreau de travail. Et ça lui a joué des mauvais tours par la suite. Elle est morte de la nicotine, si l'on peut dire, quelques décennies plus tard.
Mais c'est pour dire quelque chose de ce personnage quand même très étrange, quoi. C'est-à-dire qu'il va, mais on le reverra par la suite, mais qui défend la rationalité comme étant le cœur de la vertu individuelle, et qui, elle, vit des triangles amoureux assez délirants, se came comme pas possible, et qui écrit comme une folle de manière très compulsive. Il y a quand même quelque chose de très bizarre dans ce personnage.
Ah oui, mais c'est quelqu'un d'extrêmement paradoxal. Hein. Il y a parfois un énorme hiatus entre les convictions qu'elle professe et la manière dont on les applique ou ne les applique pas d'ailleurs. Donc c'est quelqu'un, on en parlera par la suite, donc c'est Ayn Rand, l'apôtre de la raison, de la rationalité, la première et la plus haute des vertus chez elle. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que son comportement, ses choix sont loin d'être toujours rationnels, en effet.
Alors on parlera demain de Fountainhead, la source vive, et puis du coup de la deuxième partie de la vie de Ayn Rand qui se fait dans la célébrité, la reconnaissance et une influence très forte. Ce sera toujours avec vous, Alain Laurent. Merci beaucoup.
Merci aussi.
Et à demain. C'était Avoir raison avec Ayn Rand, une série de Xavier Delaporte. Prise de son, Claire Levasseur et Benjamin Vignal. Réalisation, Guillaume Balbi.